Bonjour, bienvenue sur Globule Radio 90.5 FM.
On est une radio locale qui part des événements qui se passent dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. On vous diffuse cette émission actuellement depuis Chamonix Sud, qui se situe dans les vastes montagnes au nord des Alpes.
Je suis l'animatrice Amy et je suis accompagnée de Lila, Phileas et Jules.
On est des élèves de la classe de 4e B du Collège Jeanne d'Arc.
En ce moment, on fait un projet en français sur Chamonix au 18e et 19e siècle. Donc, on va vous parler d'Horace de Saussure, Marie Paradis, le ski et le Mont-en-Vert. On va aussi vous diffuser des chroniques sur la NASA, les pyramides, les égalités hommes-femmes dans les entreprises et les loups.
Si vous ratez cette émission, vous pouvez la retrouver très facilement sur globule.chamonix.radio ou globule-radio.fr.
Et maintenant, on va vous passer la parole à Jules, qui va présenter sa chronique sur les pyramides. Mais en fait, Jules, c'est quoi les pyramides égyptiennes ?
Je vais vous parler d'une des 7 merveilles du monde, ou plutôt de 123 constructions, dont une pyramide qui en fait partie. Leur taille est entre 10 et 146 mètres. Le poids moyen pour chaque bloc qui les constitue est de 2,5 tonnes. Elles ont toutes été construites à Gizeh.
Mais c'est quoi Khéops ?
Khéops est la plus grande pyramide d'Égypte qui culmine à 146 mètres. À peu près équivalent à un immeuble de 50 étages, elle a été construite vers 2560 avant Jésus-Christ par Khéops, 4e dynastie. Elle a un volume de 10,6 millions de mètres cubes, équivalent à deux fois la quantité d'eau du lac d'Annecy, avec un poids d'à peu près 5 millions de tonnes, équivalent à 33 350 baleines bleues.
C'est vraiment très impressionnant, mais comment a-t-on pu construire de tels monuments ?
Il y a plusieurs théories de construction, comme dire que ce sont des extraterrestres ou encore des dieux qui seraient à l'origine de ces monuments. Mais la solution la plus logique serait qu'elles auraient été construites par des traîneaux qui transportaient des blocs, des troncs de bois plantés à la verticale tout au long d'une rampe. Cette rampe devait à la fois empêcher les blocs de dégringoler vers l'arrière et servir de point d'appui pour hisser les traîneaux avec un système de cordes.
Et pourquoi avoir construit ces monuments ? À quoi servaient-elles ?
Elles servaient de temple pour le roi. Quand il venait à mourir, on le mettait dans un sarcophage pour le mettre en contact avec le dieu Soleil Ra.
Et pourquoi les avoir faites aussi grandes ?
Leur forme et taille caractéristique symbolisaient un rayon de soleil pour le remettre en contact avec leur dieu.
Les rois égyptiens ne mesuraient pas 146 mètres ?
En tout état de cause, selon les chercheurs, les 11 os des bras et des jambes indiquent clairement une taille très au-dessus de la moyenne estimée à 1,87 mètres. Les pharaons étaient certes mieux nourris que le peuple, mais cela n'en reste pas moins inhabituel, écrivent les scientifiques juricois. Conclusion, au XXIe siècle, nous n'avons toujours pas de certitude définitive envers la construction des pyramides, mais plutôt des théories. Ont-elles vraiment été construites de cette façon ?
Merci beaucoup Jules, c'était très intéressant. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM, accompagné de la classe des 4e B.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
La radio que vous écoutez est bien Globule Radio. Cette chanson s'appelle « I'm So Standing » par Elton John. Je vais maintenant vous parler un peu des loups à Chamonix. On a vu beaucoup de loups depuis 2020. D'après Groupe Icomedia et Radio Mont-Blanc, il y a eu beaucoup d'attaques contre les troupeaux. Lors de l'été 2020, dans la vallée de Chamonix, on estime qu'en un mois, il y a eu plus de 5 attaques et une trentaine de bêtes tuées entre les moutons et les chèvres. Ils ont continué en 2021 avec beaucoup plus d'attaques en beaucoup moins de temps. 36 bêtes tuées en l'espace de 5 jours. Le Dauphiné nous annonce aussi quelques observations de loups en 2022.
Mais pourquoi les loups viennent-ils à Chamonix ?
Avant 2020, la dernière fois qu'on les avait aperçus, c'était en 2004. Depuis, on ne les avait pas revus. France Info, Le Messager et le journal des propriétaires du Mont-Blanc nous disent qu'une des raisons est la pandémie mondiale Covid-19. Il n'y avait pas de touristes ou skieurs et les remontées mécaniques étaient fermées. Donc, il n'y avait personne pour protéger les troupeaux et les loups en ont profité pour manger les moutons et les chèvres. Les loups avaient moins peur et c'est toujours le cas. Le retour du grand prédateur est aussi naturel. Dès que le loup a été protégé, en Italie, dans les années 70, il a commencé à rechercher de nouveaux territoires et il devrait logiquement le continuer. Le loup ne connaît pas de frontières et une meute pourrait très bien installer son territoire dans d'autres régions.
Et que font les éleveurs pour protéger leurs troupeaux à Chamonix ?
Comme le loup est une espèce protégée et a une reproduction importante, on ne peut pas leur faire des mal. D'après France Info, Groupe Icomedia et le journal des propriétaires du Mont-Blanc, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a décidé d'envoyer l'association IPRRA, c'est-à-dire l'Institut pour la promotion et la recherche sur les animaux de protection, pour réaliser un bilan sur la vulnérabilité des éleveurs sur leur territoire et essayer d'en savoir un peu plus sur les loups et leur comportement. Il y a aussi des éleveurs qui vont expérimenter un alpage refuge. C'est une sorte de refuge qu'ils vont partager. Ils vont regrouper leurs troupeaux et alterner pour assurer la surveillance et la protection de leurs animaux. Dire que l'on va avoir un berger en permanence, des chiens de protection et des troupeaux parqués, c'est pas aussi simple que ça. Les chiens ne doivent pas être ni trop agressifs, ni trop réactifs, mais ils ne doivent pas être non plus trop gentils, car si c'est le cas, ils se font nourrir par tous les randonneurs et ils ne fraisent plus aux troupeaux. De plus, il y a un chien de protection, c'est du travail.
Est-ce que les loups sont dangereux pour nous ?
Le loup n'est pas plus dangereux que d'autres animaux sauvages. Les attaques ne se produisent presque jamais contre l'homme. Comme la plupart des animaux, ils sont intéressés par la nourriture et attaqueront que s'ils se sentent en danger ou s'ils sont affamés. Je pense que les loups ne font rien de mal et qu'ils veulent juste manger et se nourrir comme toutes les espèces. Ils trouvent les moyens les plus faciles pour cela. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à visiter les sites suivants. Groupe Icomedia, Le Dauphiné, France Info, Le Messager et le journal des propriétaires du Mont Blanc.
Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love? Oh,
Vous êtes toujours sur Globule Radio et vous venez d'écouter What's Love Got to Do with It par Tina Turner. Elle est malheureusement décédée le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans. Et maintenant, nous allons écouter la chronique personnelle de Lila sur les inégalités hommes-femmes dans les entreprises.
Merci Amy. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des sujets très connus par le monde entier. Ce sujet est l'inégalité hommes-femmes au travail. Cette inégalité pénalise presque toutes les entreprises et les métiers. Par exemple, j'ai récemment visité un musée et j'ai appris que le monde de l'art a un énorme écart de rémunération entre les sexes. Par exemple, selon Four.com, des œuvres d'artistes féminines se vendent pour une fraction des prix reçus pour des œuvres d'artistes masculins. Sur les 196,6 milliards de dollars dépensés aux enchères d'art entre 2008 et 2019, les œuvres produites par des femmes ne représentaient que 4 milliards de dollars, environ 2% des ventes totales.
Mais comment est-ce possible ?
Une analyse de 18 musées d'art américains majeurs a révélé que leurs collections sont à 87% masculins. Lorsque les hommes signent une œuvre d'art, sa valeur augmente par rapport à une peinture non signée. Mais quand une femme signe une œuvre d'art, sa valeur diminue.
Mais c'est honteux ! Combien de temps est-ce que cette inégalité entre les hommes et les femmes va-t-elle durer ?
Selon un spécialiste sur Radio France, le temps qu'il faudra pour atteindre ceci est de très précisément 99,5 ans. Cette durée de temps est très très longue et impériale. Personnellement, ça me choque complètement et c'est pour ça que j'ai voulu faire un point sur ce sujet.
Tu nous parles d'inégalités, mais sont-elles si importantes dans la vie de tous les jours ?
Eh oui, tout à fait. En visitant le site Les Clés du Social, j'ai appris qu'en France, les hommes sont payés en moyenne 28,5% plus que les femmes. Et Quimpa Info nous présente aussi que c'est très bizarre qu'encore aujourd'hui, 76% des emplois partiels soient occupés par des femmes. Et ce n'est pas tout. Il y a des dizaines de choses que je pourrais citer. Comme, selon Slate.fr, il n'y a jamais eu de femme présidente en France. Il y a même eu des remarques choquantes. Par exemple, Sandrine Lévesque, professeure sciences politiques, remarque que ce rôle a été construit par et pour les hommes.
Ce n'est pas illégal de discriminer une personne en raison de son sexe en France ?
Tout à fait. Selon le ministre du Travail, en France, même si la loi accorde les mêmes droits aux hommes et aux femmes, et même si à l'école les filles suivent le même programme scolaire que les garçons, et sont libres de choisir leur étude et leur futur métier, il y a encore beaucoup de changements que l'on doit faire. Ce sujet et ces chiffres auront certainement réveillé un sentiment de colère chez les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais aussi, j'espère que les hommes seront eux aussi révoltés par ces données. Et bien sûr que ce n'est pas un plaidoyer contre les hommes, mais je demande juste que tout le monde essaie de faire un petit effort de prendre en compte que les femmes peuvent tout faire comme les hommes. Si vous voulez plus d'informations sur ce thème, je vous invite à visiter quelques sites comme Wikipédia, viepublique.fr et ainsi.fr.
Merci Lila pour ces informations très choquantes. On va maintenant vous faire passer la musique Life is a Highway par Wasco Flats.
Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door. The blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Come on,
êtes toujours sur Globe Radio 90.5 FM. Il est 9h22, Phileas va maintenant nous parler un peu de NASA et leurs projets à venir.
Bonjour, je m'appelle Phileas et comme Amy vient de le dire, je vais vous parler de la NASA. Avez-vous entendu parler du projet de la NASA ? D'ici 2025, il prévoit d'envoyer des hommes sur la Lune. Cela fait près de 60 ans que Armstrong a posé le premier pas sur la Lune. Et personne n'y est retourné depuis, à part des sondes, des rovers ou encore des satellites.
Quelle fusée utilisera la NASA pour ce voyage ?
L'année dernière, ils ont effectué les premiers tests de la méga-fusée SLS, Space Launch System, développée en 2011 par la NASA. D'ici 2024, ils feront les premiers vols habités pour la Lune, et d'ici 2025, la première mission lunaire habitée.
Tout est donc prêt ?
Non, il reste encore un problème. La NASA n'a pas de combinaison pour les astronautes. L'entreprise choisie par la NASA pour concevoir et produire les combinaisons qui se posera sur la Lune n'a pas encore conçu le moindre prototype. Certes, elle disposera de tous les travaux antérieurs de la NASA, mais comme l'a dit Hervé Stivenin, le responsable de l'entraînement des spationautes pour les sorties extravéhiculaires à l'ESA, en gros, ils n'ont que 2 ans. C'est demain, c'est un énorme challenge.
Pourquoi ne pas utiliser les mêmes combinaisons d'Apollo ?
Bien, la combinaison d'Apollo n'est pas assez souple. Conçue dans les années 60, la combinaison A7L est iconique. Elle totalise 21 sorties en surface lunaire, près de 160 heures de service, sauf qu'elle a montré ses limites. Usure dangereuse, mobilité réduite, les gants étaient très rigides une fois pressurisés et le torse souple aurait été trop fragile pour un usage prolongé, a déclaré Pascal Lee, planétologue au Mars et SETI Institute.
Quel est le casse-tête d'une combinaison spéciale à forme humaine ?
Déjà, elle doit affronter toutes les températures. Sur la Lune, les températures passent de 120 degrés au Soleil et descendent à moins de moins 170 degrés, voire moins au fond des cratères. Elle doit aussi résister à la poussière lunaire, supporter les impacts de micrométéorites, limiter les radiations et garantir une autonomie. Les réserves de la combinaison d'Apollo permettaient les sorties d'environ 7 heures, celles de l'ISS ne font guère mieux. Pour Artemis, la NASA veut porter l'autonomie à 8 heures ou plus. Mais ce n'est pas tout. Elle doit assurer des communications haut débit, entretenir la pression et faciliter l'enfilage. Il faut près d'une heure et 6 mètres à 2 pour enfiliser la combinaison dans l'ISS. Il ne faut pas 20 minutes pour la combinaison russe, Orlan, qui s'enfile dans le dos et sans aide. Enfin, elle doit détecter les défaillances des astronautes, disposer d'un éclairage puissant, neutraliser le CO2, éviter les rayures, s'adapter à des morphologies différentes et assurer l'apport hydrique calorique et prévoir les missions futures. La Lune n'est pas la fin du voyage. La NASA la voit comme un tremplin pour Mars. La combinaison doit donc être évolutive, ce qui comptera en particulier son poids, car la planète rouge a une gravité 2 fois supérieure à la Lune. Donc, énorme challenge.
Merci Phileas, espérons qu'ils réussissent. Vous êtes toujours en compagnie des élèves du Collège Jeanne d'Arc sur Globe Radio 90.5 FM, une radio locale de la vallée de Chamonix. Voici la musique Cold Hearts par Elton John et Dua Lipa.
just passing through.
Renegades par Ex-Ambassadors sur Global Radio 90.5 FM. On va maintenant vous parler un peu de Saussure. Phileas, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Horace Bénédicte de Saussure. J'ai récemment interviewé Aline Dacosta et je lui ai posé cette première question. Quelle est votre profession ?
Je suis médiatrice culturelle pour le réseau des musées de Chamonix et particulièrement pour le musée alpin.
Et depuis quand exercez-vous ce métier ?
Depuis très longtemps, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais de la médiation et 20 ans que je travaille au musée alpin.
Qui était Horace Bénédicte de Saussure ?
Horace Bénédicte de Saussure, c'est un savant genevois qui est né à Conches, près de Genève, le 17 février 1740. Il est issu d'une famille d'aristocrates français. C'est un homme de son siècle, du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, qui est caractérisé pour un fort intérêt envers les sciences et la nature. Et justement, de Saussure a toujours été fasciné par cette thématique. Il est décédé le 22 janvier 1799 et il est considéré comme un des fondateurs de l'alpinisme.
Quelle était sa profession ?
Alors, sa profession, déjà, Horace Bénédicte de Saussure termine ses études par une thèse sur la chaleur. C'est la science l'a toujours intéressé, donc c'était un scientifique, un petit peu touche-à-tout, comme on peut dire, géologue, mais aussi géographe, botaniste, météorologue, chimiste, physicien. Et il a été également professeur de philosophie à l'Académie de Genève, même s'il a consacré la plupart de son temps aux recherches scientifiques.
En 1787, est-il monté au sommet du Mont-Blanc pour la première fois ?
Alors lui monte pour la première fois, mais la première ascension au Mont-Blanc avait déjà eu lieu, grâce à lui d'ailleurs, entre autres, puisque de Saussure, qui est né en 1740, arrive à Chamonix en 1760. Et il a pour objectif de découvrir la nature, la montagne. Il monte au sommet du Brévent et il a devant lui une magnifique vue sur cette chaîne du Mont-Blanc. Et il va avoir cette idée, atteindre le sommet du Mont-Blanc. À ce moment-là, on ne parle pas du tout de sport, d'exploit, etc. Il ne veut pas monter pour la gloire, il veut monter pour des raisons scientifiques. Et il partage son idée en redescendant du Brévent, mais les habitants de Chamonix, qui à ce moment-là ont très peur des montagnes, ne sont pas convaincus par la proposition. Donc il va proposer beaucoup d'argent, une forte récompense, pour celui qui trouvera le chemin. Il retourne à Genève et va attendre de longues années, 26 ans exactement, avant que la première ascension soit réalisée par Jacques Balma et le docteur Paccard le 8 août 1786. Suite à ça, Jacques Balma donc, va rencontrer bien sûr de Saussure, qui est ravi qu'on ait trouvé le chemin enfin, et il demande à Jacques Balma de l'accompagner pour faire son ascension. Ça fait 26 ans qu'il attend, hein. Donc il va monter à l'âge de 47 ans en 1787, accompagné de Jacques Balma et de nombreux guides et porteurs. On parle d'ailleurs de voyage de Saussure au sommet du Mont Blanc. Et il va réaliser un certain nombre d'expériences. C'était l'objectif de son ascension. Donc lui, c'est la première fois qu'il monte au sommet du Mont-Blanc. Il veut vérifier l'altitude du sommet, savoir si le Mont-Blanc est bien la plus haute montagne. Mais il veut également vérifier si le ciel est plus foncé lorsqu'on va en altitude. Donc il passe 3-4 heures au sommet. Il n'est pas tout à fait satisfait parce qu'il ne peut pas, au vu de son état physique et du mal des montagnes, il est un petit peu déçu de ne pas pouvoir faire toutes ses expériences. Donc il n'a pas terminé son travail. Et ça, c'est important, même s'il réalise quelque chose de grand, puisqu'à l'époque, il estime l'altitude du Mont-Blanc à 4775 mètres.
Et suite à ça, que s'est-il passé ?
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Suite à tout ça, donc à cette idée de Saussure d'aller au sommet du Mont-Blanc, il y a bien sûr cette première ascension qui va être considérée plus tard comme étant la naissance de l'alpinisme. Donc cette première ascension, elle va avoir un fort retentissement dans toute l'Europe. Donc ce qui s'est passé, c'est le lancement finalement de la science au Mont-Blanc grâce à cette ascension. C'est également le début de l'alpinisme et bien sûr une forte promotion pour la ville de Chamonix, pour la vallée de Chamonix. Donc les conséquences vont être nombreuses. Les ascensions vont commencer, le métier de guide suite à ça va apparaître. Chamonix va voir arriver de plus en plus de visiteurs. Donc finalement, ce qui se passe à ce moment-là, grâce à cette ascension au Mont-Blanc, c'est un petit peu l'avenir de Chamonix qui se dessine et qui va transformer ce petit village, ce petit bourg où vivent des habitants dans des conditions extrêmes, hein, particulièrement l'hiver, en capitale mondiale de l'alpinisme et en une ville touristique très connue, comme on peut le constater aujourd'hui.
Et a-t-il monté d'autres sommets que le Mont-Blanc ?
Oui, alors je te remercie de poser la question, parce qu'effectivement, on parle souvent de Saussure comme étant, de par son rôle qu'il a joué là, pour cette première ascension du Mont-Blanc. Mais le Mont-Blanc, finalement, c'est qu'une étape dans la vie de Saussure, parce qu'il a arpenté pendant plus de 24 ans, un grand nombre de montagnes et de volcans de par l'Europe. Son objectif, c'était de trouver une explication géologique aux origines de la Terre. Donc c'est vrai que de Saussure, tout le temps, on fait le résumé Mont-Blanc, puisque c'est, on va dire, l'événement le plus important au vu des conséquences que je viens d'exprimer. Mais oui, il a fait d'autres sommets, d'autres ascensions. Alors, on ne peut pas toutes les citer, mais il a notamment fait un an plus tard un séjour de 17 jours au col du Géant avec son fils. 17 jours, hein, donc ce n'est pas une ascension, c'est plusieurs nuits à dormir. Dans le but, encore une fois, de terminer les expériences qu'il n'a pas pu faire au sommet du Mont Blanc, et puis toujours de comprendre cette montagne, cette nature. Et il va même faire construire par les guides ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant le premier observatoire, finalement, en montagne. Il a fait également plusieurs expéditions, et notamment au Cervin, à Zermatt. Et d'ailleurs, sa dernière expédition, il la fera au col du Théodule, au Cervin, en août 1794. Mais de Saussure, non seulement il a lancé la science en montagne, non seulement il a apporté beaucoup aux scientifiques d'aujourd'hui, qui utilisent encore le travail qu'a fait de Saussure, mais il a par ailleurs du coup lancé l'alpinisme, continué à faire la promotion de Chamonix, notamment grâce à ses écrits. Il avait envie de comprendre, mais aussi de transmettre. Quand on écrit, c'est qu'on veut transmettre. Et il va écrire un ouvrage qui s'appelle « Voyage dans les Alpes », qui comprend 7 volumes, où il détaille, décrit finalement toutes les expériences qu'il a pu faire tout au long de sa vie.
Merci beaucoup Filias et Madame Dacosta pour cette interview. La prochaine musique s'appelle « 3 nuits par semaine » par Indochine. J'ai récemment interviewé Madame Dacosta sur Marie Paradis. Je lui ai posé la question, quelle est l'histoire que l'on raconte au musée alpin? Voici sa réponse.
Alors, déjà, c'est moi qui vais te questionner. J'aimerais savoir quelles sont les deux versions que tu as entendues.
La première, c'est que Marie Paradis allait aller voir Jacques Balma. Elle lui a demandé, est-ce que je peux venir avec toi? Et la deuxième, c'est que Jacques Balma était en train de passer vers où habitait Marie Paradis et l'a persuadé de venir avec lui.
Alors, effectivement, il y a plusieurs versions qui existent, notamment celle d'Alexandre Dumas. J'imagine que c'est là où tu as découvert cette histoire. Alors, Alexandre Dumas se trompe sur la date, parce que Marie Paradis a bien fait l'ascension en 1808. Donc après, s'il se trompe sur la date, on peut se dire, est-ce qu'il se trompe aussi sur son récit? On n'a pas énormément de choses dans les archives qui racontent cette ascension de Marie Paradis. En tout cas, au musée alpin, la version que l'on expose, c'est effectivement celle où on lui a proposé d'aller au Mont Blanc de façon à ce qu'elle soit aussi riche et célèbre que Jacques Balma. Donc, a priori, ce n'était pas son idée, son souhait, son envie.
Et du coup, vous pensez que c'est cette histoire parce que vous avez trouvé des preuves ou pourquoi vous pensez que c'est ça?
Par rapport aux écrits, donc déjà d'Alexandre Dumas, mais aussi d'autres personnes qui ont raconté, qui ont écrit cette histoire. L'histoire, c'est quelque chose de fascinant parce qu'effectivement, c'est en fonction des preuves que l'on trouve. Parfois, on parle de mémoire collective. Il y a des histoires qui se racontent de génération en génération. Après, on essaye toujours, en tant que musée, de croire, entre guillemets, à la plus plausible, effectivement. Donc, plus on va avoir de témoignages ou d'écrits dans un sens, plus on va se dire, bah voilà, c'est la bonne version. Maintenant, comme je te le disais, on n'a pas vraiment de texte de sa main, de certificats qui peuvent attester de cette ascension, etc. Par contre, ce que raconte l'histoire, c'est qu'effectivement, elle est partie au Mont Blanc. C'était très fatigant pour elle. Et ce qui a beaucoup fait parler de Marie Paradis, c'est qu'elle n'y a pas été. Elle l'a pas fait seule. Elle a dû être tirée et portée par les guides. Ce qui fait que du coup, son succès a été moyennement apprécié entre guillemets. Sans les guides, certains disaient qu'elle n'y serait jamais arrivée. Et d'ailleurs, elle raconte qu'elle regardait devant, tout était blanc. Qu'elle regardait derrière, tout était noir. Et elle le dit elle-même qu'ils ont dû la tirer comme une poulaille pour qu'elle arrive au sommet. Donc c'est bien la première femme qui arrive au sommet, c'est ce qu'elle raconte dans les écrits que nous avons. Maintenant, ce ne sont pas des écrits de sa main certifiés, authentifiés.
Et est-ce que Marie Paradis, elle avait une famille avant qu'elle a monté au Mont Blanc?
Oui, alors Marie Paradis est native de Saint-Gervais. Elle vivait a priori avec sa maman au village des Ouches, au Bourgeat précisément. Et pareil, on raconte aussi dans l'histoire que quand elle fait son ascension, elle était mère d'un petit bébé de 4 mois. Donc oui, elle avait une famille. Après, précisément, père, mère, enfin voilà. On n'a pas l'arbre généalogique, malheureusement, de Marie Paradis qui pourrait confirmer tout ça.
Merci beaucoup. Vous êtes toujours en compagnie des élèves du Collège Jeanne d'Arc sur Globule Radio 90.5 FM. On va maintenant vous faire passer la musique « Take Me Home Country Roads » par John Denver.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Country roads, take me home.
Aujourd'hui, je veux parler du train à Chamonix. J'ai récemment interviewé Sébastien Julet et je lui avais posé cette première question de « Quand a été créé le train à Chamonix ?» Et voici ce qu'il m'avait répondu.
En plusieurs étapes. Et la première étape, c'était la construction de la partie Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet-Chamonix, qui s'est terminée en 1901. Et la ligne a été complètement terminée pour pouvoir circuler de bout en bout jusqu'à Martigny en Suisse, en 1908. Voilà, le dernier tronçon Argentière-Le Châtelard a été terminé en 1908 et les trains ont pu circuler de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet jusqu'à Martigny à partir de l'année 1908.
Qui a créé le train ?
Le train, avant la création de la SNCF en 1937, il n'y avait que des grandes compagnies privées qui exploitaient les lignes ferroviaires en France et c'est la compagnie PLM, Paris-Lyon-Marseille, qui est à l'initiative de la création de la ligne à la fin du 19e siècle.
Quel a été son succès à ses débuts ?
Elle a eu un grand succès, et encore on peut le voir dans les affiches touristiques de l'époque. Ça a été vraiment un élément important pour le déploiement du tourisme dans la vallée et des sports d'hiver. Et il y a eu un tournant quand même avec les Jeux Olympiques d'hiver en 1924, dont on fêtera le centenaire l'année prochaine. Et les Jeux Olympiques ont été vraiment aussi un autre élément qui ont fait que la ligne a connu son plein essor en même temps que le développement des sports d'hiver.
Combien de temps a duré la construction ?
Les travaux ont démarré en 1899 jusqu'en 1908, donc les travaux ont duré environ 9 ans.
Pourquoi avoir construit le train et pas autre chose ?
Alors, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en fait, le train était le seul mode de transport collectif qui existait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture particulière, il n'y avait pas de bus ou d'autocar. Le train était le seul moyen de transporter un grand nombre de personnes d'un point A vers un point B. Donc, il n'y avait que le train qui existait comme moyen de transport collectif.
Quelle est la particularité de ce train ?
Alors, il y a deux grandes particularités. D'ailleurs, c'était une prouesse technologique à l'époque de créer un train de ce type-là au début du XXe siècle. La première grande particularité, c'est le mode d'alimentation du train par l'énergie électrique, par le troisième rail qu'on retrouve partout sur la ligne, qui alimente électriquement des trains. J'en profite pour rappeler que ce troisième rail est extrêmement dangereux et qu'il ne faut en aucun cas s'en approcher. Je dis ça pour les auditeurs de la radio, un rappel de sécurité. Donc nos trains sont alimentés par l'électricité. C'est la première grande particularité, sachant qu'à l'époque, la plupart des trains roulaient à la vapeur et au charbon. C'était des trains vapeur. La deuxième grande particularité, c'est l'écartement entre les rails. Sur le Mont Blanc Express, on parle de voie métrique. L'écartement entre les deux rails est de 1 mètre. Alors que sur voie normale, sur les autres lignes partout en France, l'écartement entre les deux rails est de 1,43 m, je crois.
Est-ce qu'il a contribué au développement de Chamonix ?
Oui, le fait d'avoir cette infrastructure de transport collectif dans la vallée a grandement contribué à développer le tourisme dans la vallée quand il existait peu d'autres modes de transport que des diligences à l'époque, ou des relais de poste avec des chevaux. Donc, avoir une telle infrastructure a été une grande chance pour la vallée de Chamonix, et reste une grande chance aujourd'hui. C'est une grande chance d'avoir cette infrastructure ferroviaire dans la vallée de Chamonix.
Merci à Jules pour cette interview avec Sébastien Gillet, qui nous a permis d'apprendre plus sur le train du Mont-Blanc Express. Et maintenant, une petite pause musicale. venez d'écouter Respect par Aretha Franklin. Je vais passer la parole à Lila qui va nous parler du ski au 19e siècle.
Merci ma chère Amy. J'ai récemment interviewé Christine Boymont-Lasserre sur le sujet du ski au 19e siècle. Je lui ai posé la question, quel a été le matériel utilisé pour le ski fin 19e siècle? Et voici ce qu'elle m'avait répondu.
On se déplaçait sur la neige avec des raquettes. Il existait des skis dans le nord, hein, en Scandinavie depuis très très longtemps, mais très très peu en Europe. Donc fin 19e, c'est le tout début du ski en Europe.
Quelle a été l'évolution du ski pendant les années
Alors l'évolution du ski, hein, ça a pris beaucoup de temps parce que effectivement, on a découvert le ski par le biais des Norvégiens. Et donc, je parle de Chamonix, hein, évidemment. À Chamonix, on a commencé dans les années 1900 à se déplacer sur des skis. Et puis, on ne savait pas skier. On ne savait pas se déplacer. D'autant plus que les skis que l'on avait qui venaient de Norvège étaient des skis très longs, mais qui convenaient pour un terrain plat. Dans la vallée, terrain plat, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, on cherchait surtout à monter. Et là, on savait. Alors, c'était plus facile de monter parce qu'on connaissait une technique de mettre des pots de phoque sous les skis, hein, qui se fait encore actuellement. Mais alors, la descente, c'était la cata. On ne savait pas descendre et on tombait dans tous les sens. Quand on a les récits, c'est très, très amusant parce que avant de trouver une technique de ski, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Par exemple, aux Jeux Olympiques, on n'avait pas encore de ski alpin, hein, par exemple. Donc, ça vous donne un petit peu une idée.
Dernière question, qui a été le premier skieur à Chamonix-Mont-Blanc?
Alors, si on veut parler de premier skieur, on va dire qu'il y avait deux personnages importants qui ont utilisé des skis pour se déplacer. Et le plus important a été le docteur Michel Payot. Voilà. Alors, c'est un personnage important parce que lui, tout d'abord, il découvre les skis et il se rend compte que pour se déplacer, bah, c'est rudement pratique. Et donc, surtout pour aller voir ses malades, qui, quand il devait aller à Argentière, bah, c'était pas toujours facile d'y aller à pied ou à raquette. Et il trouve ce moyen vraiment fantastique. Et il a été celui qui a vraiment initié les Chamoniards au ski.
Merci ma chère amie Lila et madame Boymont-Lasserre pour cette interview très intéressante. Je voudrais également remercier la société Hindenburg pour nous avoir laissé utiliser leur logiciel gratuitement. Un autre grand merci à Madame Mère, Madame Mertin et tout le monde à Global Radio pour ce projet. Merci de nous avoir écoutés. Notre groupe est maintenant terminé. On va vous passer à Toya, Eleonore et Alizé, qui va vous parler du thème « Dire l'amour ». ».